Bonjour à tous. Je pense que nous sommes en train de passer de très beaux moments. Je pense que la Corée chante mieux africain que les Africains. Je pense que la prochaine fois, tout le monde va venir dehors et danser tout le monde ensemble. C'était vraiment beau à voir. En 1999, mon cœur était beaucoup affaibli. Lorsque je comptais le pouls de mon cœur, donc mon cœur bat, tan, 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 et à un moment donné, ça s'arrêtait. Environ 10 secondes. Je me sentais très étrange que mon cœur ne battait pas et s'arrêtait. Et je me demandais, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que si le pouls ne reprenait pas, alors je devais mourir immédiatement. Donc ça m'arrivait très souvent. Depuis que j'étais petit, mon cœur n'était pas très bien. Et comme la médecine en Corée n'était pas très avancée à l'époque, alors, je ne pouvais pas subir des traitements. Et je ne savais pas, en fait, que mon cœur n'allait pas bien. Donc, je n'aimais pas faire des sports qui étaient... les sports qui demandaient beaucoup d'efforts physiques. Donc, j'aimais rester tranquillement. Et lorsque je faisais le service à l'armée, nous avons fait un entraînement d'attaqueur. Donc, comment on le fait, cet entraînement? C'est que nous entrons dans le camp de l'ennemi. Donc, c'est un camp, en fait, qui pénètre dans le camp de l'ennemi, et puis nous, par une voie qui est très difficile, et puis nous restons dans cet endroit et cherchons à attaquer l'autre camp. Donc on faisait cet entraînement pendant plus d'un mois. Donc nous avons subi des entraînements physiques. Donc cet entraînement laissait les gens à demi-morts. Donc on nous faisait arrêter à peu près à 100 personnes sur la plage, et puis donc lorsque l'entraîneur il dit 1, alors nous on devait sauter en fait 1000 fois. Donc on pompe en fait 1000 fois, mais pour le millième fois, on ne doit pas compter, on ne doit rien dire. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit 1000. Alors ça veut dire qu'on doit reprendre à partir de 1. Donc, en ce moment, j'avais une bouteille d'eau d'un litre, donc je transpirais tellement que... Le matin, je mangeais du sel. Parce que comme je transpirais beaucoup et que tout le sel qui était dans mon cœur se partait, donc je prenais un poignet de sel dans ma bouche. Et comme je transpirais trop, même si je buvais, j'avais encore soif à l'immédiat. Donc je buvais 10 litres par jour. Et le dernier entraînement, c'était ils ont mis un corps d'une montagne à l'autre. Donc, sur une seule corde, on devait voyager d'une montagne à l'autre. Et puis, il y a aussi sur deux cordes et trois cordes. Et puis on monte sur une grande montagne et puis on s'appuie sur un pull pour descendre de la montagne vers la rivière. Et ça fait à peu près 450 mètres de distance. Et avec le pouls, on descend en 20 secondes. Et si on descend un peu plus tôt, et on risque de mourir parce que c'est trop haut. Et si on saute un peu plus tard, on meurt parce qu'on se fait cogner le poteau. Donc on fait ce champ d'entraînement physique. Et un jour, mon corps ne bougeait pas. On nous a appelés, donc je voulais courir, mais mon corps ne bougeait pas. Donc, je me trouvais dans des difficultés. Et c'est en ce moment que j'avais découvert que mon cœur n'était pas en bon état. Et malgré mon état de santé, et en ce moment, j'avais 22 ans, 23 ans, si je me reposais 2 ou 3 jours, ma santé revenait. Mais lorsque j'avais atteint mes 50 ans, je commençais à avoir des problèmes cardiaques. Et il était impossible de traiter mon cœur. Je n'avais jamais eu peur du public. Mais en 1999, c'était en mai, nous avions un séminaire dans le gymnase de sport à Lima, au Pérou. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait un grand public et moi, je mettais devant, souvent devant un public de 100 000 ou 50 000. Donc, je n'avais jamais eu peur du public. Mais ce jour-là, lorsque je voulais m'arrêter, je voulais monter sur le podium, mon cœur battait tellement que je ne pouvais pas y arriver. Et lorsque je suis descendue au sous-sol, il y avait une salle de détente, donc j'y ai été couchée pendant très longtemps et après je suis montée. Et après le séminaire, je suis allée à l'aéroport pour prendre le vol. Et on m'avait dit que tous les frères et sœurs de l'église de Lima ont pleuré parce qu'ils ont pensé qu'ils n'allaient plus revoir Pasteur ce parc. Donc, en 1999, mon cœur n'allait pas du tout. Donc, j'avais été diagnostiquée à l'université, à l'hôpital universitaire de Hanyang pendant un an. Mais, en fait, ils ne pouvaient pas découvrir qu'est-ce que j'avais. Alors, j'ai rencontré un spécialiste cardiaque des États-Unis et il a fait un test sur moi pendant 12 heures. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit ce jour-là? Nous ne pouvons pas vous traiter. Donc, la maladie devenait de plus en plus pire. Alors, en juin, juillet 99, et je me demandais est-ce que je pourrais vivre peut-être 2 mois de plus. Et je me disais, est-ce que je vais maintenant aller vers le Seigneur? Et en ce moment, mon fils étudiait aux États-Unis. Et j'avais envie de faire venir mon fils en Corée pour qu'il puisse apprendre la foi. Parce qu'il pouvait poursuivre ses études universitaires plus tard. Mais je me disais que si je mourais, il ne pourrait pas apprendre la foi. Alors en 99, en août 99, nous avions un bâtiment à Daejeon qui faisait 7 étages. Les Coréens pensent que l'extérieur du bâtiment est très important. En Corée, il y a une sorte de pierre qui s'appelle Potsam. Donc, nous avons collé, nous avons décoré l'extérieur du mur avec des pierres qui sont très jolies. Donc, il y avait des travailleurs qui étaient à la hauteur de 7e étage et mon cœur battait tellement que je ne pouvais pas les regarder. Donc, juste avant cela, j'avais pris un vol de LA à Séoul qui faisait 11 heures. J'étais très fatiguée lorsque je suis arrivée. J'étais arrivée à Séoul, je n'avais envie de rien faire. Et lorsque j'allais de Daejeon à une ville qui s'appelle Daegu à une distance de 2 heures, 3 heures, j'étais très fatiguée. Et en août 1999, lorsque je faisais un camp à Sulbat, en Corée, Dieu m'avait rétabli. Donc, l'hôtel, ma chambre d'hôtel se trouve au 16e étage. Et donc, hier, j'ai marché jusqu'au 16e étage. Et aujourd'hui aussi, j'ai marché jusqu'au 16e étage. Donc, je pense aujourd'hui, c'était plus facile. La fois dernière, j'étais au 21e étage l'année dernière. Donc, je marchais jusqu'au 21e étage. Donc, si je prends l'avion, je prends beaucoup d'avions. Si je vais, par exemple, au Paraguay, je prends l'avion pendant 30 heures. Mais ces jours-ci, je me dis que qui dit qu'on est fatigué parce qu'on a pris l'avion? Je monte dans l'avion, je bois de coca, je dors, je lis la Bible. Et hier, nous avons pris à peu près 11 heures pour venir de la Corée jusqu'à Francfort. Donc, ils ont pris, l'avion est passé par des villes que nous connaissons très bien. Nous avons quitté Séoul par la Mongolie. Et nous sommes passés par Omsk et Moscou, puis Saint-Pétersbourg. Et donc, quand je prends l'avion, je ne suis pas du tout fatiguée. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on est fatigué parce qu'on a pris l'avion. Les jeunes gens disent qu'ils sont fatigués parce qu'ils ont pris l'avion. Et je suis très reconnaissant que Dieu travaille et il vit dans ma vie. Pendant que je vis sous la protection du Seigneur, Dieu nous a permis beaucoup de grâces et bénédictions d'entre nous. Donc en 1962, j'avais 19 ans. Lorsque je comptais les gens qui avaient 19 ans en ce moment, donc j'étais parmi les dernières des personnes qui devaient avoir 19 ans en ce moment. Quoi que je faisais, je voyais que Dieu m'aidait. Et c'était quelque chose de très étrange pour moi. L'année dernière, nous avons été en Swaziland. Nous avons prêché l'évangile, nous avons commencé le travail de l'évangile en Swaziland. Donc, les étudiants de l'école de musique partent en Swaziland pour faire un bénévolat de courte durée. Donc, il y avait une cérémonie de remise de diplôme, donc ils étaient partis chanter. Et le roi de Swaziland avait entendu leur chant et ils étaient très contents. Et ils ont demandé, vous êtes de quel pays et qu'est-ce que vous faites? Et ils ont dit que nous sommes des membres d'IYF. Le fondateur d'IYF va venir en Swaziland dans quelques jours. Et lorsque je suis arrivée à Swaziland, le ministre du gouvernement était venu me rencontrer. Donc j'étais montée dans la voiture, j'ai parlé avec lui. Et il a dit que vous avez un rendez-vous avec le roi à 18h ce soir. Vous avez 40 minutes de rencontre. Alors j'ai rencontré le roi, nous étions assis ensemble et je l'avais rencontré pour la première fois. Donc à partir du couloir royal, donc tout le monde devait ramper devant le roi pour aller devant le roi. Donc tout le monde s'agenouillait et rampait le couloir. Donc moi aussi je pensais que je devais ramper pour aller voir le roi. Donc je m'étais baissée pour ramper. Et il a dit que, ah non, les étrangers, ils sont dispensés de ramper. Donc tout le monde rampait. Et moi j'ai marché. Et j'ai rencontré le roi. Puisque je n'avais que 40 minutes, j'ai prêché l'évangile. Je lui ai prêché l'évangile. Et le roi avait écouté avec une attitude très sérieuse. Et il m'a regardé de très près. Donc je ne pouvais pas regarder ses yeux. Donc j'avais prêché pendant 30 minutes et j'ai terminé. Mais il m'a dit, le roi, mais prêchez encore. Alors j'avais prêché encore 30 minutes. Donc j'avais encore commencé à prêcher et j'ai encore prêché 30 minutes. Donc j'avais prêché pendant 1h30. Le roi avait écouté la parole pour la première fois. Il avait écouté l'évangile pour la première fois. Elle était très joyeuse. Et il a dit immédiatement, il a ouvert, il a pris la parole. Pasteur, nous allons vous donner le terrain. Construisez le centre d'IYF. Et construisez un grand bâtiment ici. Et construisez aussi votre maison en Swaziland. Et ils nous ont donné un très grand terrain qui fait 6600 pins, qui fait 5 acres. Donc, donc tout le gouvernement swazilandais ont ouvert leur cœur envers nous. Et en Swaziland, les leaders chrétiens étaient très surpris. L'automne dernier, il y avait un séminaire royal. Et à ce séminaire royal, j'ai été invité en tant que conférencier principal. Alors, tous les fidèles des églises de Swaziland étaient surpris. Donc, la porte de toutes les églises swazilandaises sont ouvertes envers nous. Donc, l'année dernière, c'était... Donc, pour fêter les Pâques de cette année, nous étions réunis avec 20 000 personnes et nous devions en fait organiser le séminaire. Mais pour le même jour, le royaume swazilandais avait également organisé la cérémonie des Pâques. Pour m'inviter en tant que conférencier principal. Donc, j'avais officiellement, respectueusement, refusé l'invitation parce que nous devions avoir le séminaire, donc je ne pourrais pas y aller. Et prochainement, si vous nous invitez à l'avance, j'aimerais bien y aller. Et je leur ai proposé, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous envoyer mon fils. Parce qu'en Afrique, le fils est considéré comme son père. Alors, ils ont dit, ah oui, j'aimerais bien recevoir votre fils. Alors mon fils était allé en Swaziland pour prêcher la parole. Et il a été également invité au séminaire royal et il a également prêché. Et le roi l'a appelé pour faire une étude biblique spéciale, particulière. Et ils ont accepté l'évangile que nous avons et nous leur avons prêché. Quand je réfléchis, je peux voir que la grâce de Dieu envers nous est si immense. Et lorsque je suis allée à Fidji, tous les chrétiens de Fidji veulent apprendre l'évangile que nous avons. À Fidji, il y a beaucoup d'églises méthodistes. Et il y a le responsable le plus haut des églises méthodistes. Et ils ont envoyé un pasteur en secrète. Ils ont envoyé un pasteur de l'église méthodiste dans notre camp des leaders des chrétiens en Corée. Et ils ont dit que nous ne connaissons pas bien l'église Gunyus Mission. Donc vous allez aller en Corée assister à leur séminaire pour voir et nous dire exactement comment est cette église. Donc ce pasteur qui a été en mission, il avait assisté au séminaire, au concert, et il a été très surpris et il a reçu le salut. Et il a fait un rapport pour l'église méthodiste de Fidji. Il a écrit en disant qu'il y a beaucoup de travail de l'évangile dans le monde. Mais nous n'avons jamais vu un tel travail de l'évangile qui est si immense comme celui de l'Église en Corée du Sud. C'est la première fois de voir un si grand travail de l'évangile qui est fait dans le monde. Et tout récemment, je suis allée en Fidji. Le responsable le plus haut des églises chrétiennes, ils ont dit, ils veulent apprendre avec l'église Gunyus Mission. Donc, l'évangile dès que le sang de Jésus a effacé tous nos péchés doit être prêché. Et en Corée, il y a beaucoup d'églises. Et il y a beaucoup d'églises en Corée qui ferment leurs portes. Et tout récemment, on avait dit que les églises coréennes sont les meilleures dans le monde. Et il y avait 8 millions de chrétiens en Corée. Mais en 2 ou 3 ans, le nombre de chrétiens ont réduit de 3 millions. Donc il n'y a même pas de 5 millions de Coréens. Et il y a beaucoup de pasteurs, de leaders chrétiens sont dans les procès parce qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Donc ils deviennent tous pécheurs. Beaucoup de gens ont abandonné l'église chrétienne. Mais dans notre église renouvelle de jour en jour. Lorsque nous avons fait la cérémonie des Pâques. Et actuellement en Corée, il n'y a pas beaucoup d'églises qui font les séminaires de Pâques. Alors lorsque nous avons fait le séminaire de Pâques, il y avait beaucoup de fidèles des autres églises qui sont venus et ils ont rendu grâce à Dieu. Et pendant le séminaire, on avait parlé de Luc chapitre 27. Et on parle de ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ a ressuscité, est ressuscité. Donc, pour le nom de Jésus, c'est écrit que la repentance qui nous fait arriver au salut a été annoncée de Jérusalem jusqu'au monde entier. Et notre Église est en train de prêcher l'Évangile qui nous fait arriver au salut dans le monde entier. La semaine dernière, je suis allée à LA et à New York pour faire le séminaire de la Bible. Et beaucoup de pasteurs de LA et de New York ont écouté la parole. Et ils étaient très surpris. Et nous avons travaillé avec l'église Kunis Mission. Et j'espère que vous allez bien nous enseigner. Nous voulons apprendre votre évangile. Ce genre de travail de l'évangile se produit dans le monde entier. Beaucoup de gouvernements du monde travaillent avec nous. Tout récemment, nous sommes allés au Vietnam, nous avons organisé le camp d'IYF avec le gouvernement. Puisque le Vietnam est un pays socialiste, alors ils montent la garde en fait contre les religions. Et nous sommes venus à Ho Chi Minh. Et le conseil de Ho Chi Minh, ils ont pris de bon côté le séminaire et tout ce que nous faisons comme activité. Pour prêcher l'évangile, nous sommes avec la Coragracias. Nous avons créé IYF. Nous sommes avec le programme bénévole de Good News Corps. Et nous faisons également l'éducation de la mentalité. Et beaucoup de gouvernements et beaucoup d'États sont surpris de l'éducation de la mentalité que nous faisons. Actuellement, le monde souffre à cause des problèmes juvéniles. Et les gens essaient de résoudre des problèmes par des solutions juridiques. Nous avons rencontré le président des Philippines tout récemment. Et il est actuellement dans la lutte contre la drogue. Le président a fait une ordonnance. Les drogués confessent maintenant. Si vous ne vous révélez pas dès maintenant, après cette époque-là, lorsque nous découvrons les drogués, vous serez tués à l'instant sur place. Alors ils ont découvert 600 000 drogués et il n'y avait pas de prison pour les 600 000. Alors on les a placés dans une plaine et des milliers de drogués ont été attrapés dans la rue et ils ont été tués sur place. Enfin, ils ont été fusillés sur place. Donc il y avait beaucoup de gens qui blâmaient le président. Et alors j'ai expliqué au président des Philippines que nous n'utilisons pas les moyens juridiques, mais nous essayons de changer le cœur des jeunes. Donc ils se sentaient très concernés par nous. Alors actuellement, nous sommes en train de préparer pour faire l'éducation de l'esprit pour les gens qui travaillent à la présidence des Philippines. Beaucoup de professeurs, directeurs des universités, lorsqu'ils rencontrent l'éducation de l'esprit, donc ils se sentent très étonnés. J'ai écrit 2 livres sur l'éducation de la mentalité et je suis sur le troisième livre. beaucoup de gens regardent le monde de la mentalité. À travers notre éducation de l'esprit, beaucoup de jeunes changent. Les jeunes d'IYF qui sont en Corée, à travers l'éducation de la mentalité, ils changent et ils se renouvellent. Et nous leur prêchons l'évangile. Beaucoup en savent que IYF est une association chrétienne, mais tous les pays nous aiment et tous les pays veulent nous accepter dans leur pays. Quand je vois tout cela, je ne peux pas exprimer combien de fois je suis comblée de joie et je rends gloire à Dieu. Je ne savais pas que je pouvais faire un tel travail précieux. Mais en 1968, lorsque j'avais terminé mon service militaire, et après que j'ai fini mon service, je me disais qu'est-ce que j'allais faire. Parce que l'église où j'étais avant, puisque je suis allée faire le service militaire, il y avait un autre pasteur. Et moi, je voulais toujours continuer à prêcher l'évangile. Alors, j'avais décidé de prêcher l'évangile chez mon père, en vivant avec mon père. Parce que mon père, il était un cultivateur et il avait un peu plus de 60 ans. Et j'avais 24 ans. Mais comme mon père il travaillait dans les champs et que moi j'étais jeune, je ne pouvais pas rester sans l'aider. Donc pendant la journée, je partais dans les champs l'aider. Donc puisque mon père était un homme habile, donc même s'il ne fournissait pas beaucoup d'efforts, il pouvait bien utiliser les ustensiles, les outils pour travailler la terre. Mais pour moi, puisque ce n'était pas une habitude, donc pour l'utiliser, l'arche et tous les outils étaient difficiles pour moi. Et lorsque j'entrais le soir à la maison, donc on prenait le dîner et je n'avais même pas la force de me laver, j'étais tellement fatiguée. Alors je mangeais en dormant et je dormais immédiatement. Donc au début, je voulais travailler dans les champs le matin et le soir évangéliser. Mais je disais que c'était impossible. Puisque mon père était un cultivateur, alors si je restais avec mon père, je ne pouvais pas aller au champ. Alors je devais quitter la maison. Alors j'avais décidé d'aller dans la ville de Kimtang pour prêcher l'évangile. Et il n'y avait personne qui m'aidait. Alors, comment je peux évangéliser à Kimtang? Je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Et c'était en automne. Et un missionnaire qui était à Séoul m'avait appelé. Et il avait fait un séminaire de la Bible dans une plaine en mettant des tentes. Et il m'avait invité et il m'avait demandé est-ce que je pouvais faire la classe pour les enfants pendant 5 jours. Donc à chaque fois que la réunion des adultes est terminée, je rassemblais les enfants pour leur faire apprendre les cantiques et prêcher la parole. Donc l'organisation m'avait donné comme honoraire 3 500 won. Donc j'avais reçu quelque chose de 3 euros. Donc c'était une somme qui était très importante pour moi à l'époque. Et c'était la première fois d'avoir une telle somme. Donc je l'avais mis dans ma poche. Et j'avais pris le train pour aller à Kimtang. Donc j'avais soif, mais je n'avais pas acheté même un verre d'eau à boire. J'avais 3 euros dans ma poche. Et avec ça, si je peux avoir un appartement pour prêcher l'évangile serait très bien. Mais lorsque je suis allée à Kinshasa et j'ai demandé le loyer, la location, et on m'a dit que la chambre où nous pouvons utiliser pour offrir le culte coûtait 70 euros. Donc l'argent que j'avais ne faisait qu'un vingtième du loyer. Donc je marchais dans la ville de Kimpton et j'ai fait un tour. Et j'avais marché toute la ville de Kimpton et j'avais demandé à Dieu. Dieu, ici, il y a un salon de thé. Et là, il y a une boutique des prêt-à-porter. Et là, il y a une librairie. Et là, il y a un restaurant. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, même les dieux du monde donnent le bâtiment à leurs fidèles. Mais moi, je ne suis pas les gens du monde, mais je suis ton serviteur. J'aimerais prêcher l'évangile dans la ville de Kinshasa. Et si tu ne me donnes pas la maison, qui pourrait me donner la maison? Dieu dit, donne-moi une maison. Et j'aimerais prêcher l'évangile dans la ville de Kinshasa. Et je ne pouvais pas demander à quelqu'un de me donner de l'argent. Et par après, je suis allée dans un petit quartier qui se trouvait dans la montagne et qui s'appelait Apkokton. Et à chaque fois que j'avais d'occasion, j'allais à Kimpton et je faisais un tour pour regarder la ville et la maison, pour chercher une maison. Et un jour, je suis allée à Kimpton. Et j'étais sur le chemin de rentrer à Apkokton chez moi. J'avais pris un bus de Apkokton à Krotsan. Et il y avait un Européen ou un Occidental en fait, qui était monté à côté de moi. Donc, j'ai parlé avec lui dans le bus. Je ne parle pas bien anglais, mais je parle très bien coréen. C'est vrai, hein? En coréen, je peux tout dire. Donc, le coréen qui parlait et l'anglais que je parlais étaient presque identiques. Donc, nous avons utilisé le langage du corps pour se communiquer. Et il m'a demandé qui es-tu? Je lui ai demandé qui il était, il a dit qu'il s'appelait John Anderson. Et je lui avais demandé où est-ce que vous venez. Et il m'a dit qu'il venait de Londres. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et il m'a dit qu'il était missionnaire. Ah, vous êtes missionnaire en Corée. Il a dit oui, c'est vrai. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire à Kotin. Et il disait qu'il voyageait. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est un voyage en mission? Ah non, je fais un voyage comme ça. Donc j'étais très fâchée. Ah, c'est une personne fainéante qui vaut rien. Mais si vous êtes venu en tant que missionnaire, il faut prêcher l'évangile. Mais pourquoi est-ce que vous voyagez? Mais je pense que vous ne valez rien. Aussi les gens qui sont pourris comme vous, même la Corée va pourrir. Il faut que vous rentrez dans votre pays. On n'a pas besoin d'antennes missionnaires comme vous. Donc j'ai crié en fait dans le bus en y allant. Donc il ne disait rien, il était juste assis. Donc, je pense que les Anglais, ils sont vraiment des gentlemen, même si ça ne lui plaisait pas, il a bien écouté. Après, si c'était moi à qui on disait comme ça, alors j'aurais dit, de quoi tu te mêles? Je voyage avec mes sous, mais pourquoi est-ce que dans quoi est-ce que tu te mêles? C'est comme ça que j'allais dire. Et après, à Gotham, nous sommes descendus. Donc, pour aller à Poton, je vais prendre un autre bus et aller à peu près 20 km. Donc, j'attendais pour acheter le ticket de bus. Le missionnaire était venu à côté de moi et il m'a dit, Monsieur Park, oui. Est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Donc, pour le fatiguer, en fait, je lui ai dit de venir chez moi. Donc, il est venu dans la montagne chez moi. Donc, je suis vraiment désolée. Mais comme on habitait dans la montagne, il n'y avait pas, ni robinet, il n'y avait ni de puits. Donc, on buvait vraiment l'eau de la montagne. Donc, je pense que si c'était aujourd'hui, on n'allait pas faire de cette manière. Mais comme c'était trop jeune et il me manquait de réflexion, et comme je buvais toujours l'eau de la rivière, je lui avais donné de l'eau de la rivière. Donc, mon estomac coréen ne réagissait rien, mais l'estomac anglais ne pouvait pas accepter l'eau de rivière. Donc, il a fait diarrhée pendant toute la nuit. Il est allé aux toilettes pendant toute la nuit et je me sentais très désolée. Mais je ne pouvais rien faire pour lui. Il était couché chez moi pendant 4 jours. Et le dernier jour, il m'a dit, « Monsieur Park, j'ai quelque chose à vous dire. Si je meurs, il faut, s'il vous plaît, ramenez mon corps à ma femme, s'il vous plaît. » Et il m'avait donné son adresse pour envoyer son corps, son cadavre, au cas où il mourrait. Donc le lendemain, il s'est levé et il voulait quitter. Et j'étais très désolée. Parce que je ne pouvais rien faire de bien pour lui et que je ne faisais que crier sur lui. Et il m'avait dit qu'il voulait dire quelque chose. Et il m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire avant de quitter. Et je lui ai dit de pas dire. Et il m'a dit, Monsieur Park, jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré de personne qui vit comme vous. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs chrétiens. J'ai jamais rencontré un homme qui aime vraiment Dieu et qui sert Dieu comme vous. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de Bible, beaucoup de la Bible. Mais pendant quelques jours que j'ai passé avec vous, j'avais très honte envers vous. Et j'aimerais apprendre la vie chrétienne que vous menez. Donc, c'était très marrant pour moi. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre de ma vie? Ah non, non, non. Mais j'aimerais vraiment apprendre la vie chrétienne que vous menez. Et il m'a dit, est-ce que je peux rester avec vous pendant un an? J'aimerais vraiment rester avec vous pendant un an, s'il vous plaît. Donc, je ne trouvais pas de mots à dire. Mais lui, il avait un ton très sérieux. Et je lui ai dit, nous, c'est différent de vous. Et nous ne cherchons pas de travail et nous ne gagnons pas de l'argent. Et il n'y a aucune personne qui nous aide. Nous prions tous les jours pour manger et nous suivons le guide de Dieu. Donc, à cause de manque de foi, il y a souvent des cas où nous ne pouvons pas manger. Et en ce moment, qu'est-ce que nous faisons? Vous avez beaucoup de pain et nous, on n'a pas à manger. Alors, en ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai demandé. Et ce qui est vraiment gênant pour moi, c'est que lorsque j'ai faim, et que si vous nous ramenez du pain, je pense que je vais manger. Mais moi, j'aimerais pas vivre de cette manière. Même si je n'ai pas à manger, j'aimerais avoir faim devant Dieu. Mais je ne voudrais pas avoir d'aide d'autres personnes. Mais si vous voulez vraiment vivre avec moi, il y a des conditions que je vous demande à remplir. D'abord, bien sûr que je ne peux pas vous donner d'argent, parce que je n'ai pas d'argent. Mais si vous avez de l'argent et que vous avez du pain, je pense que même si vous me voyez avoir faim et que vous me donnez de pain, je pense que je ne pourrais pas supporter cela. Est-ce que vous pouvez me promettre cela? Pas seulement dit, ça veut dire que même si je meurs de faim, vous ne pouvez pas me donner un dollar. Vous ne pouvez pas me donner du pain. Et moi, de même si vous mourrez de faim, je ne vais pas vous donner de pain ni d'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, bien sûr. D'accord, alors on pourra rester ensemble. Alors, tu permets que je reste avec toi? Est-ce que vous êtes sûr que je pouvais respecter la promesse? Donc, le missionnaire, il était très content et il a couru. Il sautait en fait sur place. Et 10 jours plus tard, il était venu me voir. Et il était très content. Monsieur Père, je priais pour avoir une maison à Kimsan. Dieu m'a donné de l'argent. Il m'a donné une somme qui permet d'acheter une bonne maison à Kimsan. Monsieur Park, nous devons vivre dans une même maison, n'est-ce pas? Avec cette somme, on va chercher une maison à Kimsan. Et j'ai réfléchi. Ah, Dieu m'a fait rencontrer ce missionnaire pour nous donner de la maison. Alors, nous avons trouvé la maison à Kimsan et nous avons pu évangéliser dans la ville de Kimsan. Dans ma vie, il n'y avait aucune espérance humaine. Mais nous sommes allés à Kimsan pour avoir le loyer de la maison. Et en Corée, il y a plusieurs manières de louer une maison. Et entre autres, on paie à peu près 80% du prix de la maison. Alors, le propriétaire de la maison prend cette somme et il utilise ça pour faire ses affaires. Et lorsque nous quittons la maison, il nous rembourse les 90% de la somme qu'on a versée. Et nous lui retournons la maison. En fait, il y a cette manière d'investissement. Alors, nous avons pris la maison de cette manière et nous avons bien passé du temps. Et il y a eu un problème. Le propriétaire de la maison, il faisait beaucoup de jeux de paris. Il a parié et il a eu beaucoup de dettes. Donc, il a prêté beaucoup de l'argent à la banque contre la maison où on était. Et comme il n'était pas capable de rendre l'argent, il avait fui. Et nous, on ne pouvait pas retrouver le propriétaire. On n'avait pas d'argent non plus pour restituer et on devait juste quitter la maison. Et les gens de la banque, les banquiers étaient venus pour nous demander de quitter. Alors on a dit au propriétaire, on a dit au responsable de la banque en lui expliquant que oui, on aimerait bien quitter. Et on doit quitter la maison alors qu'on ne nous a pas donné, on nous a pas rendu de l'argent. Nous sommes dans des conditions très difficiles. Alors j'ai dit à mon maître, donc j'ai fait le rapport de tout ce qui se passe à mon maître, mais il m'a pas encore répondu. Donc puisque j'ai tout expliqué à mon chef, alors attendez quelques jours de plus. Si mon maître accorde, je vais quitter. Alors, il était très surpris. Ah, vous aviez un patron? Oui, j'ai un patron. C'est qui ton patron? J'ai dit que c'était Jésus. Donc, il était très surpris. Et il m'a dit. Oui, j'ai bien compris. Donc, je sais que vous priez, donc j'aimerais que vous priez plus pour quitter plus tôt. Donc, il m'a dit de prier. Et on a beaucoup prié. Et un jour, on priait. Et quel cœur est-ce que Dieu m'a donné? Il m'a dit, j'ai eu le cœur de sortir et chercher la maison. Et je me suis dit que c'était le cœur que tu m'avais donné. Alors on était sortis pour chercher la maison. Et il y avait une maison à louer qui n'était pas loin de la maison où nous habitions, et mais qui faisait deux étages. Mais comme la maison coûtait vraiment cher, nous ne pouvions pas payer. Nous avons juste regardé et nous sommes partis. Quelques mois plus tard, j'étais dans une petite chambre et je priais devant Dieu. Et en priant Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit? La maison que tu avais vue il y a quelques jours, comment elle était? En fait, j'ai eu ce cœur. Et j'ai dit à Dieu, cette maison est vraiment bien. Et j'ai vraiment aimé cette maison. Mais nous n'avons pas d'argent pour payer cette maison. Et j'avais prié au Seigneur. Et comme la maison était bien, je pense que les autres personnes auraient déjà pris cette maison. Donc c'est ce que j'avais comme pensé dans mon cœur en priant le matin. Donc, après le petit déjeuner, j'étais partie voir la maison. Mais je voyais toujours la pancarte où c'était écrit « Maison à louer ». Et lorsque je suis entrée dans la maison, il n'y avait que des enfants. J'ai demandé « Est-ce qu'il n'y a pas des parents ?» Et ils ont dit qu'ils sont sortis. Alors, dites à leurs parents que je vais venir ce soir pour parler de la maison. Et je suis rentrée à la maison. J'étais reparti le soir pour rencontrer le propriétaire et j'ai dit au propriétaire, je suis le serviteur de Dieu. Et je suis venu prêcher la parole dans cette ville. Et un citoyen de la ville m'a fait un grand dégât. Nous avons loué une maison. Mais il a prêté de l'argent à la banque et il a fui. Donc on ne peut pas restituer de l'argent et on doit quitter la maison. Et j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a donné un cœur qui me donnera ce bâtiment. Mais moi, j'ai aucun sou sur moi. Et si vous avez envie de nous donner cette maison, donnez-la nous. Et en ce moment, j'ai eu la foi que Dieu nous donnera cette maison.
à présent, si on me dit de répéter de tout ce que j'avais dit dans ce genre de situation, je ne pourrais pas le faire. Mais en ce moment, le prêtre m'écoutait bien, il fermait ses yeux. Il a réfléchi et quelques minutes plus tard, il a pris la parole.
Je vis dans une ville qui s'appelle Tijua. Et je suis l'ancien de l'église qui est à Tijua.
Et Dieu m'a donné un très beau bâtiment qui est au bord des grandes routes. Mais ce n'est pas une autre personne, mais le serviteur de Dieu veut utiliser cet immeuble. Alors comment est-ce que je pourrais empêcher le serviteur de Dieu à venir travailler ici, utiliser notre maison? Je pensais que je rêvais.
La musique du piano que jouait la fille de l'ancien était vraiment jolie.
Je pensais que je rêvais. Alors je voulais quitter la maison.
Il m'a dit.
Je pense que si vous venez vraiment sans rien, je pense que ce sera inconfortable pour toutes les deux parties.
Il m'a demandé, est-ce qu'il y aurait une somme que vous pourriez préparer?
Donc, à mon insu, moi-même j'ai dit 80 000.
Et le propriétaire a dit, d'accord, vous allez amener 80 000. Ça fait 80 euros. Donc, le propriétaire a dit, d'accord, 80 euros, ça ira. Vous allez amener 80 euros. Mais je vous disais que c'est le Seigneur qui m'a fait dire cela.
Donc, j'avais un cœur comblé. Et c'était lundi, et j'avais dit que j'allais déménager pour jeudi. Donc, j'étais allée voir le chef de la banque, et je lui ai dit que nous étions vraiment désolés.
C'était le chef de l'agence que j'étais allée voir, et je lui ai dit que je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu nous a donné la maison, et nous allons déménager le jeudi. Donc, prenez soin de la maison.
Donc, le chef de l'agence, il a dit que je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée parce que tu es comme une pousse qui est en train de grandir. Et je pense que je te pétille. Et il m'a donné une somme. Donc, il a compté une somme et puis il m'a mis dans ma poche. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas la peine.
Je l'ai salué.
Et quand en sortant, je me demandais c'était combien cette somme. Donc dès que je suis sortie, je suis entrée dans un carrefour et j'ai compté l'argent. C'était 10 euros, qui était une somme très grande. J'étais très reconnaissante. Et en 3 jours, Dieu m'avait donné 80 euros. Donc j'avais jusqu'à 50 euros,
mais je n'arrivais pas à avoir 30 euros de plus.
Mais comme je crois que c'est Dieu qui faisait comme ainsi, donc je me disais que c'est Dieu qui m'aidait. Il y avait un ami, et mon ami m'avait appelé un jour. Et aussi, j'ai appris que tu étais dans des difficultés. Mais je ne peux pas t'aider. Je suis en train de faire les affaires.
J'ai 20 000 que je peux mettre à ta disposition.
Si je te le donne, est-ce que ça pourra t'aider?
Et lorsque les conditions te permettront, je te rendrai.
ne pense pas que j'ai beaucoup d'argent et que je te donne, mais je te fais un prêt. Donc si tu ne peux pas me rendre, c'est pas grave. Mais quand tu pourras, tu vas me rendre les 20 dollars. Les 20 euros. Et je lui ai dit, ah, je te remercie autant. Et quand je pourrai, je vais te rendre. Et il m'a donné 20 dollars, 20 euros. Et j'ai pu avoir 70 euros. Et il y avait plusieurs personnes qui travaillaient avec nous, donc je leur ai tous appelé. Donc par la grâce de Dieu, nous allons déménager dans une nouvelle maison. C'est une maison qui coûte 600 euros, mais le propriétaire va nous donner la maison à 80 euros. Et j'ai maintenant 70 euros, mais ce n'est pas 10 euros. Mais je pense que Dieu veut que vous payiez la somme. Alors sortez toute la somme que vous avez. Et nous avons rassemblé toutes les billets et les jetons qu'on avait et ça faisait 8 euros. Donc on a pu avoir 80 euros et c'était le jour du déménagement. Et je me rappelle très bien de ce jour-là.
Je ne voulais pas déménager.
Parce que Dieu nous a donné la maison. Et je suis une personne qui prêche l'évangile. Et je me dis que ah, les autres ils vont faire le déménagement, mais moi, je dois aller prêcher. Donc, j'ai pris la Bible, je suis sortie pour faire pour prêcher l'évangile. Pardon. Donc, je suis entrée dans une maison, c'était une maison qui croyait en Dieu. Donc, je leur ai dit que je voulais prêcher l'évangile. Et toute la famille avait écouté la parole que je prêchais. Et j'ai prêché la parole jusqu'à 17h, hein, pendant toute la journée. Et il commençait à faire tard. Et lorsque je suis sortie de la maison, il pleuvait très fort. Alors la dame qui était à la maison, elle a dit, ah, je suis désolée, nous n'avons pas de parapluie chez nous. Il pleut fort, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous ne pouvez pas nous parler encore de la Bible et partir lorsque la pluie va cesser? Et ce jour-là, j'avais envie de marcher sous la pluie. Donc je leur ai dit, ah non, c'est pas grave. Même Jésus, quand il était sur la terre, il n'avait pas de maison. Et je ne sais pas comment j'aimerais expérimenter comment Jésus a évité la pluie. Donc j'ai mis la Bible dans la Bible. Donc j'ai marché de très loin sous la pluie. Donc je remercie beaucoup le Seigneur. Donc, en venant jusqu'à la maison, j'avais pleuré pendant toute la nuit, pardon, toute la marche. Seigneur, quand tu étais sur la terre, quand tu venais à Jérusalem, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de chambre. Et lorsque toutes les personnes rentraient chez soi, et c'est écrit dans Matthieu chapitre 7, à la fin du chapitre 7, c'est écrit, tout le monde rentra chez eux. Et Jésus, comme il n'avait pas de maison, il est allé à la montagne des Oliviers. Et tous sont allés à la maison, mais Jésus, il est allé à la montagne des Olives. Lorsque je suis arrivée à Séoul et que j'ai eu un immeuble, dans l'immeuble, il y avait 4 chambres. La maison avait 4 chambres et en venant dans cette maison, à quoi j'ai pensé? Ah, si j'habitais à Jérusalem il y a 2000 ans et que j'avais ce genre d'immeuble, j'aurais donné cet appartement à Jésus, parce qu'il y a 4 chambres. Une chambre, je peux donner à Jésus. Et 3 autres chambres, j'allais donner aux 12 disciples. Et ça allait très bien. Et dans mon immeuble, il y a 2 chambres. Et il y a la cuisine. Et c'est un bureau. Donc ça fait en fait 3 chambres et un bureau. Donc je peux voir à travers la Bible que Jésus vivait sans maison. Et sous la pluie, j'ai marché longtemps. Et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, tu as vécu sans maison. » Et en priant à la montagne des Olives, quand il pleuvait comme aujourd'hui, sous quel arbre est-ce que tu as évité la pluie? En prêchant l'évangile, quand il pleuvait, et sous quel toit est-ce que tu es allé pour éviter la pluie? Quand tu étais sur la terre, tu as vécu sans chambre. Qui suis-je pour que tu me donnes une telle maison? Je n'avais pas de sous sur moi, mais tu m'as donné une belle maison. Et ce soir, j'avais été complètement mouillé. Et Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu étais souvent mouillé sous la pluie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'aimerais être mouillé sous la pluie comme toi. Et j'ai marché sous la pluie pour arriver dans la nouvelle maison. Les frères et sœurs avaient fini le déménagement, donc ils avaient tout nettoyé et ils m'attendaient. Moi, je suis un serviteur de Dieu qui a beaucoup de défauts, mais je peux voir que quoi que je fasse, Dieu était avec moi. Lorsqu'on avait commencé la mission en Afrique pour la première fois, il n'y avait personne que je connaissais en Afrique. Comment est-ce que je pourrais faire prêcher la parole en Afrique? C'était en 1993 et j'habitais à Taizan. Et il y avait une exposition à Taizan. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues du Kenya. Donc, ils étaient venus à l'exposition. Ils avaient en fait fait l'exposition. Ils étaient à l'exposition pour vendre des produits de décoration africaine. Et il y avait des sœurs de l'église qui étaient venues en disant que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour l'exposition à Taizan. Donc, on va faire des flyers pour leur distribuer en anglais. Alors les jeunes étaient partis évangéliser et on continuait à rencontrer des Kenyans. Alors on partait les rendre visite et on jouait, on s'amusait. Et un étudiant était venu nous dire, « Ah, pasteur, les Kenyans, ils sont très misérables. Pourquoi ?» En Corée, la nourriture est très chère. Lorsqu'ils sont venus en Corée, comme la nourriture coûtait très cher, ils ne pouvaient pas bien manger. Donc, ils disaient qu'ils ne mangeaient que de patates et de ramen qui ne coûtaient pas beaucoup cher. Alors, j'ai dit à ma femme que nous allons inviter les Kenyans à manger. Et on m'avait dit qu'au Kenya, il n'y a pas beaucoup de poulet. Donc on va cuisiner du poulet, on va faire des kimbap. Donc ma femme a bien cuisiné. Et nous avions invité 20 Kenyans à dîner chez moi. Lorsqu'ils ont dîné avec nous, ils étaient très contents, joyeux, ils étaient reconnaissants. Et ils nous ont dit, lorsque nous sommes invités à dîner, nous, chez les Africains, on achète des cadeaux. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas pu apporter de cadeaux. Mais nous allons vous offrir des chants. Et ils ont chanté. C'était la première fois d'écouter des chants. Et donc, dans le chant, ils disaient « kékékékék » et c'était très intéressant. Et on a passé des moments très joyeux. Et on a dit aux Kenyans, et qu'est-ce que vous voulez faire en plus que vous êtes en Corée? Et ils nous ont dit, Pasteur, nous aimons voyager en Corée. Les autoroutes en Corée sont très bien faites. Alors nous voulons monter dans la voiture et pour conduire la voiture, en fait, pour monter dans la voiture et passer sur les autoroutes. Donc souvent je pars dans des villes pour faire des séminaires, mais je vais avec ma femme, donc il reste 3 places. Donc à chaque fois que je vais dans une autre ville, vous pouvez venir avec moi. Donc à chaque fois que je partais dans une autre ville, je les appelais et puis ils faisaient tour à tour, ils venaient dans ma voiture et puis on partait ensemble à Daegu et à Busan. Vous savez, donc pour m'amuser en fait, je leur donnais des nourritures un peu intéressantes, marrantes. Donc vous savez, les Coréens, ils mangent des aliments vivants. Les Coréens, ils mangent du poulpe vivant et qu'on dit que c'est un des aliments qui sont détestés en fait, qui est dégoûté par le monde entier. Mais les Coréens mangent les poulpes vivants, donc lorsque les Africains ils ont vu cela, donc, ils étaient sur le point de s'évanouir. Mais ils étaient tous très contents. Donc avec les Kenyans, je suis allée beaucoup dans les autres villes. Et au Kenya, il y avait un ministre. Et il avait appris de nous. Et il nous a appelés. Pasteur Separ, je te remercie beaucoup parce que tu as pris soin de nos Kenyans. Alors nous allons venir te rendre visite. Et je lui ai demandé à quelle heure il allait venir, et il a dit vers 18h. Alors je lui avais proposé un dîner chez nous, et il était d'accord. Et je lui avais demandé combien de personnes allaient venir, et il a dit 20 personnes. Et on lui avait offert un dîner. Le ministre était très content, et il était rentré. Et en 1994, il nous a invités au Kenya. Et en 1994, je suis allée au Kenya pour la première fois. Et j'étais très reconnaissant. Et c'est ainsi que la mission au Kenya avait commencé. Et en 1995, je voulais repartir au Kenya. Pasteur, n'allez pas seulement au Kenya, mais il faut aller au Ghana aussi. Donc, je n'ai pas le temps, je ne peux pas aller. Donc, j'avais refusé. Et quelque temps plus tard, il m'a rappelé. Pasteur, il faut que vous alliez aussi au Ghana. Non, je n'ai pas le temps. Et le temps passé. Et Frère Sam m'a appelé pour la 3e fois. Pasteur, il faut que vous veniez au Ghana. Le Ghana a besoin de l'évangile. Parce qu'il m'a demandé 3 fois, alors je ne pouvais pas refuser. Alors, en 95, nous sommes allés au Ghana. Et lorsque nous allions au Kenya en 94, nous avions pris l'avion vers Kenya en faisant escale à Francfort. Donc, nous avions offert le culte ici. Et il me disait qu'il partait à Göttingen. Et lorsque je suis allée à Göttingen, on m'a dit qu'on faisait le culte. Et c'était la première fois de voir les Africains au culte. Et on chantait. Et j'ai vu que c'était la première fois de voir les Africains au culte. Donc ils chantaient très fort et ils dansaient et tout. Donc en 95, nous sommes allés au Ghana. Et au Ghana, il n'y avait personne que nous connaissions. Et frère Sam avait envoyé sa femme pour préparer les lieux de culte et le logement et le repas. Et la sœur avait tout préparé pour nous. C'est ainsi que l'évangile a été annoncé au Ghana. Et aujourd'hui, l'évangile est annoncé dans presque tous les pays de l'Afrique, sauf quelques-uns. L'année dernière, le travail de l'évangile a été si puissant en Afrique du Sud. Et dans toute l'Afrique, l'évangile travaille. Tout récemment, le travail de l'évangile s'est manifesté également en Europe.
La fois dernière, je suis allée à Hyderabad de l'Inde et nous avons vu que les étudiants avaient fait une couverture de la cantate de Noël. Donc, de ma part, ce n'était pas parfait, mais les gens avaient beaucoup aimé.
Et nous l'avions fait dans un terrain de football.
Et il y avait 18 000 personnes qui étaient venues assister. Et il n'y avait plus de place où les gens pouvaient s'arrêter. J'étais très reconnaissant du fait que Dieu travaillait à travers l'expression de l'esprit. Et il y a un grand travail de l'évangile qui est très particulier actuellement dans la région sud de l'Afrique. En Éthiopie, nous avons rencontré le Premier ministre et nous organisons un événement en Éthiopie. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur le plan de faire l'éducation de la mentalité à tous les étudiants et sous la permission du Premier ministre. Alors, IYF a signé un mémorandum d'entente, un pacte d'entente avec le ministère de l'Éducation. Normalement, c'était un État chrétien, mais pour éviter des conflits, alors il a déclaré le Premier ministre avait déclaré la liberté de la religion en Éthiopie. Donc, en Éthiopie, il n'y a pas de conflit entre le christianisme et l'islam. Dieu a ouvert la porte à l'évangile dans tous les pays. En Corée, il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Il y a à peu près 5 millions de fidèles. Ces gens ne croient pas encore que Jésus a passé tout le péché. Je ne sais pas les chrétiens comment ils lisent la Bible. Et lorsqu'ils chantent des cantiques, ils disent qu'ils chantent que tout est passé, mais après la cantique, ils crient en disant que Seigneur, efface mes péchés. Et tout récemment, en prêchant l'évangile, les églises du Coran ouvrent leurs portes pour nous.
Et
Et je suis très reconnaissante du fait que je suis très reconnaissante du fait que Dieu nous ouvre la porte pour que nous puissions passer les mêmes.
Et la semaine dernière, nous avons organisé le forum des leaders chrétiens aux États-Unis. Et il y avait des pasteurs de notre église qui faisaient 100 personnes. Et il y avait 800 pasteurs qui venaient d'autres églises, donc il y avait au total de 100 personnes. Et beaucoup de pasteurs ont reçu le salut et ils veulent travailler avec nous. Et nous sommes en train de témoigner que nos péchés sont effacés plein plus que la neige par le sang de Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes pécheurs. Oui, c'est vrai que nous avons péché. Mais puisque Jésus a effacé nos péchés sur la croix, et c'est un fait évident, c'est pourquoi la Bible ne dit pas que nous sommes pécheurs. Dieu dit que nous sommes justes. Mais nous croyons à la parole de Dieu. Quand Dieu dit que nous sommes justes, alors nous sommes justes. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent l'évangile, changent et ils entrent dans l'évangile. Et nous espérons couvrir toute l'Europe par l'évangile. Et nous croyons que Dieu a tout fait pour que nous puissions faire ce travail. Alors, dites tout clairement, si nous sommes pécheurs, alors la croix de Jésus a échoué. Mais la croix de Jésus n'a pas échoué. Parce qu'il a effacé nos péchés blancs plus que la neige. C'est ce que nous devons croire. C'est ce que nous croyons. Et j'espère que tous les pays de l'Europe soient remplis de l'Évangile. Je veux remercier de venir si nombreux pour ce séminaire. Et en tant qu'enfant de Dieu, que nous avons reçu le salut, et nous sommes des gens qui servent Dieu. Et Dieu veut prêcher, commencer, avancer son évangile à travers nous dans le monde entier. Et j'espère que ce soit le début de l'annoncement de l'évangile dans l'Europe. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il est mort. Qui a effacé tous nos péchés. Je remercie à chacun de vous. Et la scène africaine de Pagasia, c'était vraiment aimable. Et le bâtiment, et cette salle n'est pas élégante, mais elle est très bien. Donc je remercie beaucoup les gens qui se font autant de peine pour avoir ce bâtiment. Dieu travaille pour l'évangile. Et on dit que l'église de Francfort a acheté un bâtiment. Et je pense que cela va apporter beaucoup de support pour prêcher l'évangile. À partir de Francfort, nous allons prêcher l'évangile dans tous les pays. Et il y a longtemps où l'évangile avait été plus prêché, c'était en Europe. Mais beaucoup d'églises en Angleterre sont fermées. Et même en Angleterre, beaucoup d'églises sont en train de fermer. Et les gens qui aimaient le christianisme sont en train d'être dépravés. Et les gens n'ont pas pu recevoir, connaître le véritable évangile.
n'ont pas pu recevoir le salut. Nous, Dieu est avec nous et nous l'avons expérimenté. Et si je dois faire témoignage de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je ne peux pas y arriver. Dieu ne travaille pas en vous parce que vous êtes juste ou vous êtes bien, mais Dieu travaille. Parce que le sang de Jésus-Christ a effacé tous les péchés blancs plus que la neige. Alors à travers cela, et vous qui travaillez dans cette vérité, Dieu est heureux de sauver l'Europe. Et soyez reconnaissants de même comme moi que vous puissiez être utilisés pour ce travail. J'espère que vous soyez tous des gens qui vivent pour l'Évangile. Nous allons prier.